J'avais été amené à dire, si moi je reçois une balle en Algérie, je ne sais pas au peuple algérien qui en voudrait, mais c'est à ceux qui m'ont envoyé là-bas.
Bonsoir, notre émission de ce jour est la première d'une série de deux consacrée à Bruno Scandolara. Bruno Scandolara fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Né à Saint-Priest, rien ne prédestinait non plus Bruno Scandolara à devenir, l'âge adulte arrivant, un guerrier colonial, ce que la République du moment décida de faire de lui. Aujourd'hui, après plus de 50 ans de silence, il a bien voulu parler de cette expérience et répondre à notre invitation à réaliser un entretien autour de son vécu de cette période. Dans la première partie de cet entretien, nous évoquerons son enfance de fils d'immigrés italiens, puis sa jeunesse et son insertion dans le monde du travail, où il devint un jeune ouvrier métallurgiste, déjà sensible à la nécessité de la lutte politique, jusqu'au moment où il va être, à 20 ans, incorporé et passer ses 10 premiers mois à Chambéry dans les chasseurs alpins, puis être envoyé en Algérie, rejoindre le 30e bataillon de chasseurs alpins à Ras el Ayoun. Au fil de ses propos, des illustrations musicales viendront ponctuer son récit. Et au début de cette émission, après cette réflexion isolée mais lourde de sens, extraite des propos de Bruno Scandolara, vous avez pu entendre un chant d'immigrés italiens en France du début du XXe siècle, « E tutti va in Francia ». Par le groupe Italia de Sarreguemines. Je vous propose de retrouver Bruno Scandolara. Bonne écoute. Monsieur Scandolara, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu pour un entretien autour de votre expérience pendant la guerre d'Algérie. On va peut-être parler depuis le début de votre origine, votre naissance, le lieu, vos parents, que faisaient-ils ?
Oui. Dites-moi. C'est une bonne idée. D'abord, moi aussi, je vous remercie de me donner la parole. C'est pas si souvent. Mon origine, je suis né à Saint-Priest, tout près de Vénissieux où j'habite. de parents immigrés italiens, disons immigrés du fait d'avoir fui un peu le régime de Mussolini en 1926. Et donc j'ai poussé comme ça, fils d'ouvrier, etc.
Votre père travaillait?
Il était électricien. Alors, plus ou moins avec des moments de chômage parce qu'il était un peu grande gueule. Alors il ne restait pas toujours à la même place. Par contre, ma mère est restée longtemps ouvrière du textile à Maréchal, à Saint-Priest. Il a travaillé 25 ans, je crois. Voilà, sur l'origine...
Des frères et sœurs?
Oui, deux sœurs qui sont plus âgées, toujours en vie, bien sûr, enfin, c'est bête de dire comme ça.
Et l'école?
Et l'école, jusqu'à 14 ans.
À Saint-Priest, votre école?
À Saint-Priest, oui, toujours. L'école primaire, avec des enseignants très intéressants. Il y en a qu'on vénère un peu, là, qu'on fête presque chaque année à Saint-Priest. J'ai eu de la chance... à l'école, de tomber sur des enseignants de grande qualité, comme c'est le cas de M. Crozatier, qui est véritablement vénéré à Saint-Priest pour les qualités qu'il avait à l'époque de savoir éveiller l'intelligence des enfants, des élèves, leur faire confiance et mettre en confiance, y compris, je me suis retrouvé souvent premier, deuxième dans sa classe, et je crois qu'il a su avant l'heure peut-être faire en sorte que les petits jeunes qui étaient des enfants d'immigrés souvent se retrouvent avec les autres élèves sans qu'il y ait de problème, que c'était un plus comme on dit aujourd'hui et non pas un handicap. Je voulais le signaler au passage parce que ça a été un moment assez intéressant.
14 ans, vous entrez dans le travail?
J'entrais dans le travail, disons que manuel, à la verrerie de Vénissieux pour commencer, puis ensuite dans la métallurgie, où petit à petit je suis devenu chaudronnier. Je trouve que ça a été une expérience intéressante, parce que justement c'est là où j'ai peut-être été averti sur ce qui se passait en Algérie, ou du fait de mes contacts avec mes autres camarades de travail. Ça a été très positif pour... Je voyais un peu de quoi il s'agissait.
Donc vous êtes devenu chaudronnier sans formation sur le tas.
Voilà, un peu le tas. Voilà,
sur le tas. Et à l'époque, déjà, un environnement politique...
C'était les communistes et la CGT qui étaient présents autour de moi, qui ont pu m'expliquer, parce que maintenant, avec le recul, je me dis... On a dû faire un travail de mise en condition des appelés pour que tous, des centaines de milliers de jeunes à 20 ans aillent perdre leur temps en Algérie, traverser la mer, crapahuter, faire des fois des exactions, comme on dit. Et je pense qu'il y a eu une mise en condition, je me rappelle, y compris, il faut le citer, le Progrès qui mettait en avant dans ses grands titres tout ce qui pouvait être négatif, de façon à créer un climat. Je crois que les jeunes ne seraient pas partis s'il n'y avait pas eu cette mise en condition. Un peu comme aujourd'hui, pour nous faire accepter l'austérité, on nous dit que les caisses sont vides. On a constamment des éminents économistes qui nous expliquent que les caisses sont vides et qu'il faut accepter ne pas être remboursé à la sécu, ne pas avoir des hôpitaux comme on avait avant, etc.
Et à l'époque, c'était quoi cet aspect négatif qu'on mettait en avant?
Sur les guerres d'Algérie, on n'a jamais fait un parallèle entre la vie des gens là-bas, de la population algérienne, et leur situation n'avait jamais été très mise en avant pour expliquer, y compris pourquoi ils se rebellaient, disons. Moi qui ai vu là-bas comment ils vivaient, je peux comprendre parfaitement qu'ils aient pris les armes, quoi, dans la mesure où on ne les écoutait pas. Les autres parallèles qu'on ne faisait pas, c'était les atrocités que pouvaient faire certaines personnes du FLN, alors que l'armée française, si on met les choses en parallèle, elle a commis des crimes autrement plus impardonnables. Mmh. Voilà, c'est dans ce sens que c'était une mise en condition, on voyait qu'un aspect des choses.
Et vous, jeune de 16-18 ans, vous engagez déjà à la CGT ou
au
PC?
Au tout début, j'ai été moi aussi un peu pris par ce climat, quoi. J'ai eu de la chance de rencontrer notamment un communiste de la Croix-Rousse, Charles Gorgu, et qui est décédé là. et qui a pu m'expliquer assez tranquillement de quoi il s'agissait. C'est ma chance, à tel point même que j'ai adhéré au Parti communiste un an avant de partir en Algérie, un peu pour affirmer mon refus de cette guerre. Je voulais parler de Charles Gorgie un instant, ce délégué de l'entreprise, délégué de CGT et communiste en même temps, ancien résistant, avait dû subir un jour une attaque de la bande de Louis Thomas, qui sévissait notamment à la Croix-Rousse. Et un beau jour, il n'est pas venu au travail, il avait été en effet agressé, comme il défendait le cercle populaire de la Croix-Rousse. Et il est resté environ une semaine sans venir travailler. C'est peut-être aussi ça qui a fait déborder le vase, qui m'a décidé à adhérer au Parti communiste. La bande à Louis Thomas, je ne veux pas m'étendre longuement là-dessus, mais il faut rappeler aux Lyonnais qu'à l'époque, c'était autour de 1958, il y a eu un certain nombre d'exactions menées par cette équipe de fascistes, et notamment le plastiquage d'une statue, la Liberté enchaînée, qui était vers l'université Lyon 2. Une statue créée par le sculpteur Georges Salandre.
Donc vous aviez 19 ans à ce moment-là.
19 ans, voilà, quand j'ai adhéré. En 59.
59.
Voilà, je suis parti en 60. En 59, j'ai pris mon adhésion, mais pas par sympathie simplement. J'ai constaté que c'était les seuls qui, quand on voit dans les marchés maintenant la foule de partis qui se présentent, quelquefois pendant les élections notamment, à l'époque, il n'y avait que les communistes et la CGT. C'est une expérience importante à dire, parce que ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là ne peuvent pas se rendre compte le poids qu'ils avaient pour faire entendre qu'on devait faire autrement, qu'il y avait, fallait négocier, etc., quoi, la paix, etc. Tout ça par rapport aux jeunes qui ne revenaient pas ou qui revenaient les pieds devant, ou par rapport aussi aux choses que nous faisions là-bas. Après mon adhésion, je me suis retrouvé assez vite à vendre l'UMA au carrefour des quatre chemins à Saint-Priest. C'était un peu nouveau pour beaucoup de gens qui me connaissaient, à tel point qu'un copain d'enfance est venu vers moi un jour pour me dire « Dis donc, tu sais pas, c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir, tu te ferais mieux de vendre autre chose. » Comme quoi, l'idée de défendre une conviction n'était pas ancrée partout, je crois.
L'UMA sur tous les chemins, l'UMA dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'UMA dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'UMA, un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris. Une fille, un gars, une romance, l'UMA sur tous les chemins, l'UMA dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'UMA dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'UMA. Un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison, un salut au fil d'une chanson, du soleil au carreau des fenêtres, l'UMA sur tous les chemins, l'UMA dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'UMA dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'UMA, des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère. L'Huma sur tous les chemins, l'Huma dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'Huma dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'Huma.
Donc vous êtes quelqu'un qui est parti en ayant quand même une idée sur la situation, peut-être pas une idée sur ce qu'on allait vous demander en arrivant là-bas, mais au moins sur ce qu'il en était de cette guerre d'Algérie qu'on n'appelait pas comme ça.
Voilà, tout à fait. Je me suis d'ailleurs demandé qu'est-ce que je fais, j'avais un peu l'envie de ne pas y aller. Par conviction, c'est complètement normal, je dirais. C'est pas un exploit de dire « je refuse d'y aller ». Mais la proposition qui m'a été faite, ça a été de dire il n'y a pas assez de jeunes militaires qui refusent, ça n'aurait pas d'impact, tu ferais plusieurs années de prison, et ensuite on t'enverrait à nouveau sur le terrain là-bas. Non, ça n'a pas une grande importance de faire comme ça, il vaut mieux aller à l'armée et faire ton travail de militant. C'était des principes même, mais j'ai pu constater en effet que c'était positif de faire comme ça. C'est pas par pis-aller, c'est parce que ça correspondait bien. Je me rappelle les paroles notamment que je disais. Je disais, à la place des Algériens, tu ferais pareil. Tu ne peux pas accepter qu'un pays t'occupe. Quand les Allemands étaient en France, on a fait de la résistance. Il est normal que les Algériens se rebellent. Et ça avait un impact. Même si les jeunes étaient conditionnés, comme je l'ai dit tout à l'heure,
auprès de vos jeunes compagnons militaires.
Voilà, auprès des jeunes que je rencontrais.
Et au niveau de la cellule, il y avait eu une discussion sur votre départ en Algérie, comme je sais que dans certaines cellules, ça s'est passé.
Non, ça n'a pas été... ils étaient un peu inquiets. C'est sympathique, mais bon... Non, j'ai demandé comme ça, simplement à M. Gorgu, enfin... Ah oui, il y avait d'autres personnes sur mon lieu d'habitation que je voudrais citer aussi. C'est les Aloisio, François et Madeleine Aloisio. C'était aussi des militants qui m'ont beaucoup éclairé et à qui je voudrais rendre hommage. Mais ça a été important quand je pense à certains jeunes que j'ai côtoyés et qui étaient tout fiers d'avoir fait des choses qui étaient abominables. Je me rends compte de la chance que j'ai eue, je peux dire comme ça. Des braves gars, hein, des jeunes appelés, je me rappelle les noms encore, tellement c'était important. Ils m'ont écrit dans des lettres où ils me disaient qu'ils avaient pu faire telle et telle tuerie. C'est terrible, hein, d'entendre ça. Ils en étaient contents parce qu'ils croyaient bien faire, c'est simplement ça. C'est peut-être ce qui explique que pendant longtemps, ces gens-là ne parlaient pas beaucoup de ce qui s'est passé en Algérie. On a longtemps dit qu'il y avait un silence. Je ne sais pas si vous avez aussi constaté cette chose. Peut-être que c'est parce qu'ils étaient pas très fiers de ce qu'ils ont fait.
Oui, de toute façon, c'est pareil après tous les grands traumatismes, 14-18, 39-45 aussi. Les déportés, les résistants ont souvent parlé 20 ou 30 ans après. D'abord, personne ne voulait entendre quand ils sont revenus. Et je pense que l'Algérie aussi, ça n'intéressait personne.
C'est la première fois que je parle de ces choses, et je dirais presque la première fois, pratiquement. Parmi les événements là, que j'ai en tête, il y a des choses que j'ai jamais dites, tellement elles sont enfouies.
Oui. Voilà. Et en même temps, c'est important de le dire, même si c'est sûrement difficile pour vous, parce que ce sont des faits d'histoire qu'il ne faut pas laisser oublier.
Ça compte, je pense. Même si c'est des petites choses, vous verrez, j'ai une petite expérience qui s'est passée là-bas sur le terrain, où ça n'a pas été bien loin, parce que c'est pas simple. Mais en même temps, je pense que ça compte. Mais j'en parlerai tout à l'heure.
Oui, on va reprendre la chronologie. Donc, un beau jour, vous recevez votre lettre d'incorporation.
Je me retrouve donc à Chambéry, dans les chasseurs alpins. Ça se passe bien, quoi, disons, par les gradés qui sont un peu durs. Mais ça se passe bien, la camaraderie entre soldats, c'est très bien. Entre appelés, c'est très bien. Justement, là, je commence à expérimenter mes points de vue, là, parce que c'était nécessaire. il y avait vraiment de quoi dire. À tel point, j'ai même dit, mais j'ai vu que ça choquait à l'époque, mais je trouve que c'était pourtant normal de le dire. J'avais été amené à dire, si moi je reçois une balle en Algérie, je sais pas au peuple algérien que j'en voudrais, mais c'est à ceux qui m'ont envoyé là-bas. Et je sentais que ça avait l'air de les traumatiser, comme vous disiez tout à l'heure. Et pourtant, il n'y a pas de quoi. Hein. Je pense que quand on a une conviction qu'on sait à quoi s'en tenir, on peut parler comme ça. Quoi. Voilà. Peut-être c'était péremptoire pour un jeune de 20 ans, mais c'est un peu normal, je trouve, d'avoir dit ça. Voilà, en tout cas, pendant des années, puisque ça a duré 27 mois, j'ai prôné ces idées-là.
Donc 3 mois à Chambéry?
Non, j'y suis resté 10 mois. Oui, alors c'est extraordinaire. Tous les autres, au bout de 4 mois, partaient. Et moi, j'y suis resté 10 mois, je ne sais pas pourquoi. J'étais à l'armement, comme j'avais été chaudronnier, ils me donnaient des viseurs de fusils à réparer de façon à ce que ça tire plus droit.
Vous aviez peut-être une utilité technique, ils vous ont gardé un peu.
Certains ont dit que c'est parce qu'ils devaient me connaître, ils ne voulaient pas que j'aille là-bas. Créer du mauvais esprit parmi les soldats.
Ça peut aussi être politique.
Ça peut aussi, mais je n'ai pas d'affirmation. Et puis un beau jour, on m'a envoyé là-bas où j'ai accompli.
Au point de vue date, vous avez souvenir des dates?
C'est en 60, mon incorporation, et j'ai terminé juste après les accords d'Évian, en mars 62.
Et votre date de départ de Chambéry, quand...
Je ne l'ai plus en tête, c'était pas une grande importance, mais au bout de 10 mois, quoi.
En fait, en Algérie, vous alliez faire 18 mois
J'ai fait 17 mois là-bas.
17 mois.
Et au total, j'ai fait 27 mois, 27 mois et demi.
Oui, comme tout le monde, j'allais dire.
Comme beaucoup, oui.
17 mois, et à la période de la fin de la guerre. Vous avez connu...
J'ai connu ce moment-là de la fin des événements d'Algérie, comme il disait à l'époque. Et j'ai eu la chance, là encore, de que ça se termine. Et ça a été pour moi la démobilisation. Sur les dates, là, j'y reviendrai parce qu'il y a divers moments dans cette période, y compris là-bas, avec des choses qui se sont passées. Well, bi-bop-a-doo-la, ma-ha-ha-ha, baby. Bi-bop-a-doo-la, tu as-ha-ma-doo-sa-mi. Bi-bop-a-doo-la, où donc es-tu parti? Bi-bop-a-doo-la, sans toi je m'ennuie. Bi-bop-a-doo-la, fille, je m'ennuie, si je m'ennuie. On s'est aimé une nuit. Te souviens-tu, nos mille folies? Mais sa bonheur, c'était trop beau. Il a fini dans un sanglot. Vive un peu Lula, baby. Vive un peu Lula, où donc es-tu parti? Vive un peu Lula, si je m'ennuie, si je m'ennuie. Yeah! Si je m'ennuie, si je m'ennuie. Bip up Lula, ma baby. Bip up Lula, ma douce amie. Bip up Lula, tu me reviens chérie. Bip up Lula, tu me souris. Bip up Lula, si ma baby, si ma baby, yeah, yeah. Ma baby, oh, ma baby.
Donc vous partez, vous quittez Chambéry, le train pour Marseille, j'imagine.
Oui, le train pour Marseille, et puis le bateau ensuite.
Le bateau.
Je ne sais plus le nom, El Mansour, je crois.
Et à ce moment-là, ça se passe bien tout ça, parce qu'on est à la période de la fin de la guerre, où il y avait des fois des résistances, des convois arrêtés, des choses.
Il n'y a pas eu ça pour
moi, non.
J'ai dû prendre le train à Saint-Priest pour aller à Perrache et ensuite à Marseille. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de... Bon, peut-être un peu des cris sur le quai de la gare, mais ça n'a pas été bien loin. Peut-être qu'il n'y avait pas toujours des initiatives.
Et l'état d'esprit des jeunes militaires, vous vous êtes retrouvé avec des gens que vous connaissiez déjà ou
Pas tellement, parce que je me suis trouvé un peu isolé là, en faisant ces 10 mois à Chambéry. Les autres classes étant parties, mais je me suis trouvé avec des militaires que je ne connaissais pas. Alors, se comprendre, se connaître, c'est un peu, ça prend du temps. Donc, j'avais pas de lien. Voilà, les choses se sont passées comme ça.
Quoi. Fallait vous faire de nouveaux copains.
Voilà, fallait que je me fasse de nouveaux copains. C'est pour ça, encore une fois, je me demande jusqu'à quel point on ne veut pas isoler les gens qui risquent de porter un peu préjudice, disons comme ça.
Et l'état d'esprit de vous et de ses copains, c'était quoi? La peur,
c'était
surtout
la résignation.
La résignation
avec... peur, c'était... La question ne se posait pas. La vie, elle est comme elle est. Non, la question était de la colère, plutôt, d'être obligé de partir là-bas, savoir ce qu'on allait y faire. En gros, je parle de moi. Hein. Les autres appelés, un peu... dans les vagues, si on peut dire, quelquefois, ils y allaient parce que forcés, mais en même temps, ils ne se posaient pas de questions. Enfin, beaucoup étaient comme ça. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas créé d'entrée une rébellion, de dire le peuple algérien a raison de se rebeller, on aurait fait comme lui, mais peut-être ça a dû quand même créer un climat. Je me rends bien compte que ça n'a pas changé du jour au lendemain les gens, mais quand même, quand on vous dit, écoute, toi, tu ferais sûrement pareil parce que tu accepterais pas qu'on envahisse ton pays, le gars se situe vite et comprend qu'en effet, qu'est-ce que je fais là, quoi. Alors voilà, dans le train, pour ainsi dire, ou dans le bateau. Dans le bateau, c'est toujours un peu désagréable.
C'est aussi tombé sur une tempête, non?
Non, pas de tempête, mais un peu du roulis.
Du roulis.
Alors, arrivé là-bas, on s'est trouvé embarqué dans des camions pour aller dans les Aurès, où j'étais, près de Batna, Corneille, des bleds comme ça. Je me suis trouvé radio, là, cette fois-ci. Ouais. J'étais plus dans l'armement, j'étais dans les radios.
Donc, vous allez rester, enfin, vous êtes envoyé dans un endroit où vous allez rester un certain temps.
Je vais y rester presque tout le temps.
Presque tout le temps.
Voilà.
Et c'était quoi, un petit fortin dans la montagne
Une sorte de petit fortin, mais c'était une ancienne ferme qui était transformée en petit fortin dans un village un peu perdu, quoi, mais très beau, des Aurès, très verdoyant, avec. Un noël là qui passait, des cigognes, des choses comme ça, avec des chevaux. C'était vraiment une sorte de paradis, quoi. Hein. Sauf qu'on était l'armée et qu'on était tenu à une discipline, quoi.
Il s'appelait comment, votre village?
Razelayoun. R-A-Z. Ensuite, je crois qu'il y a un tiret L-E-L. Ayoun avec un tréma sur le I. De la Yune.
Oh,
Et ça, c'était une zone habitée, quoi. Elle n'avait pas été vidée de ses habitants, comme dans certains endroits.
Il y avait un village autour, mais on n'avait pas de contact avec les habitants. On les voyait très peu. Donc, on n'avait pas de contact avec les gens. Je me rappelle être allé une fois sur le marché. On sentait les regards qui n'étaient pas des regards de complaisance de la part des habitants. Mais on avait beaucoup de mal à avoir le contact avec les gens dans... Et c'est vrai qu'on était en même temps, c'était le 30e BCA, ça s'appelait comme ça, le 30e BCA. On était réputé pour être enfin efficace dans le sens négatif du terme, puisqu'on a fait beaucoup d'embuscades, de sorties qui ont mis à bas beaucoup de gens qui étaient des maquisards.
BCA, ça veut dire
le bataillon de chasseurs alpins.
Le chasseur alpin. Donc là, pas de harkis, enfin d'Algériens intégrés ici aussi.
Il y en avait, des harkis qui étaient très négatifs. Enfin, certains ne se faisaient pas connaître, si on peut dire, ne bougeaient pas. Et puis d'autres qui étaient actifs dans le sens d'être encore plus embêtants que les soldats français, quoi. C'était un peu triste d'ailleurs, mais... Ils n'étaient pas pour autant mieux traités, hein, par l'armée. C'était des gens, je les craignais un peu dans la mesure où ils étaient contre leur peuple. Mais même si on peut comprendre que quelques-uns se trouvaient enrôlés dans ce dialère, on peut comprendre dans la mesure où il y a eu une pression incroyable de l'armée, des institutions en Algérie. Et peut-être l'habitude par les familles, je ne sais comment ils se sont trouvés dans l'armée en tout cas.
Et le rôle de votre bataillon, enfin de votre groupement, là, c'était quoi? Une compagnie, vous
c'était
étiez?
C'était une compagnie, oui. Il y avait c'était... six sections dans la compagnie.
C'était quoi? C'était de...
Ben, c'était de faire le plus de mal possible, si on peut dire. C'est terrible de parler comme ça.
C'était de mener la guerre,
bataille, quoi, la bataille. on se levait à 5h du matin, ou des fois plus tôt, pour aller dresser une embuscade où on avait connaissance qu'il y allait y avoir des rassemblements ou des passages de l'armée FLN, armée du maquisard. Et on était là-bas pour les empêcher, les attraper, les tuer, quoi, y compris. Je me rappelle d'un sentier qui était rempli de sang, tout mouillé de sang sur une longue traînée par le nombre de cadavres que nous avions laissés. Mais par contre, eux, de leur côté, quand ils ont pu nous avoir, ils l'ont fait aussi. Hein. Avant que j'arrive, il y a eu cette partie-là des Aurès. Je ne saurais pas situer vraiment le nom maintenant, ça m'échappe. Mais il y a eu beaucoup de jeunes appelés qui ont été tués. Quoi. Ça a eu même un retentissement en France, à ce que j'ai compris. Parce que c'est, d'un seul coup, il y a eu une quinzaine de tués parmi les jeunes, parmi les appelés. Oui, voilà ce que nous avions à faire. Sous les ordres d'un colonel qui s'appelait Fonlup, comme un résistant là, oui, lyonnais, et qui était très âgé et qui faisait son travail comme un automate. C'est comme on place des pions sur un échiquier, il était actif de cette façon-là.
Un vrai militaire, quoi.
Un vrai militaire.
Ils avaient dû faire l'Indochine,
oui, j'imagine. Oui, c'était pas tous comme ça. Il y en a un autre, je vous en parlerai tout à l'heure, qui était un peu farfelu, celui-là. L'autre n'était pas, il instaurait presque une sorte de respect par son attitude très, très froide, très digne, je dirais, pas malgré tout ce qui se passait autour de lui. À cause de lui-même, pour une part, on peut dire. Il savait finalement se couvrir de ce qui se passait autour de lui par son attitude de froideur ou de dignité, feinte ou pas feinte, c'était sa nature.
Et un certain nombre d'engagés, j'imagine, bon, vous les appelez, vous étiez deuxième classe, peut-être,
oui,
pas, non, déjà caporal.
Oui, deuxième classe.
Deuxième classe.
J'étais dans les transmissions, moi. Mm-hmm. J'ai contribué à ce qui se passait en étant dans les transmissions.
Donc tout le temps, vous promeniez avec l'appareil radio.
L'appareil C10, ça s'appelait, ou C9, je ne sais plus. Mm-hmm. Sur le dos, voilà, oui.
Donc,
sous les ordres, justement, tout constamment de ce monsieur, là, de ce colonel. Pendant longtemps, il a été commandant, puis il s'est retrouvé colonel à la fin.
Donc, exposé un peu plus que les autres aux balles ennemies, non ?
Non, justement, c'est pas exposé aux balles ennemies, parce qu'il était plutôt en retrait pour diriger. C'était pas par crainte, il était froid dans tous les domaines. On peut dire il n'aurait pas eu peur, je crois. Ce n'était pas une question de ça. Non, il se mettait un peu en retrait pour pouvoir diriger les opérations, quoi. Et en tant que son radio, c'était mon travail. J'avais contact avec 4-5 sections, avec les codes, etc., quoi, pour se parler en franphonie, comme on appelait ça, c'est-à-dire c'était pas du morse, c'était des mots, des verbes qu'on se disait, mais en étant le plus discret possible.
Mmh.
Blanchis les troncs des marronniers, tous au carré, bien alignés, rouges les toits, rouges les briques, bleus le ciment, patriotique, et pas une herbe dans la cour pour nous passer le mal d'amour. Ici tout est réglementaire, pas un caillou n'est de travers. Mur en béton, chevaux de frise, n'y a que les barbelés qui frisent. En rang par trois, pas qu'à danser, sous l'œil attendri des bouchers. On maquignonne, il faudrait voir, pour les augustes abattoirs. Ici le monde est chamboulé, les assassins sont galonnés. Partout la grâce et la bêtise, ces deux vertus de l'entreprise, partout la raison du plus fort sous le badigeon tricolore. Je
Que reste à toi ma solitude dans le troupeau des habitudes et jusque dans le désarroi quand le poète est aux abois pour tous les moutons qui consentent. Je suis la rage impénitente seul au milieu de la débine. C'est à moi seul que je jaspine. Au-delà de la philanthropie, il y a des consciences qui roupillent. Blanchis les troncs des marronniers, tous au carré bien alignés. Rouge les toits, rouge les briques, bleu le ciment patriotique. Et pas une herbe dans la cour pour nous passer le mal d'amour.
Et donc, dans cette caserne, dans ce bâtiment, pas de sentiment d'insécurité pour vous. Vous n'avez jamais été attaqué par...
On était harcelé assez couramment par des coups de fusil, quoi. Quand on était harcelé, il y avait l'ordre était de prendre un mortier. C'est pas moi qui le faisais, ça, hein, mais il y a un mortier, on envoyait quelques obus sur les lieux d'où venait l'attaque, en principe. Mais c'était comme ça. Je crois qu'on nous craignait beaucoup. Hein.
Ah oui.
Alors, je pense qu'on avait une mauvaise réputation.
Dans la mesure où vous sortiez à chaque fois pour faire des embuscades, c'est sûr que...
Il y avait cet officier-là, si je vous dis, qui était grimpé sur un mur. Il y avait un peu du fanatisme chez certains. C'est malheureux, d'ailleurs. Donc, ça s'est passé comme ça pendant tout le temps, où moi, je faisais la gueule parce que ça ne me plaisait pas, quoi. Mm-hmm. Mais à part faire la gueule, c'était difficile de faire quoi que ce soit d'autre. En plus, dans une situation un peu, je m'en rends compte un peu maintenant, d'isolation, enfin, si on peut dire d'isolation, de personnes isolées quand même, quoi. J'aurais eu affaire à plus de militaires, ça aurait été plus intéressant.
Est-ce que vous n'aviez pas trop des grandes veillées, des grandes après-midi avec les
oui,
autres militaires?
Oui, on se retrouvait un peu, mais c'était le genre de truc où c'était la bière. Je me rappelle, on se retrouvait au réfectoire, où c'était de la boisson constamment, quoi. Surtout de la bière. C'était pas un climat de sérénité où on pouvait discuter à tête refroidie, si on peut dire.
Vous aviez l'impression que les gens avaient besoin un peu d'oublier ce qu'ils faisaient le reste du temps.
Oui, quand on y pense après coup, ça devait être un peu la raison de ils avaient tendance à boire. Plus que de raison.
Et l'armée fournissait les bières.
Elle fournissait pas, non. Je crois me rappeler qu'on devait les payer, hein, quand même. Non, on buvait pas gratuitement, parce que, y compris, ça aurait été trop. Mais non, on payait, ça devait pas être une grosse somme qu'on payait. Il y avait une caisse, je ne sais plus comment ça fonctionnait, c'était un aspect de détail, quoi. Oui, voilà, les moments où on avait moyen de discuter avec l'ensemble, c'était ces moments-là où ça prenait cette allure un peu... Quand on est enfermé entre jeunes de 20 ans et qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire, on boit des coups, quoi. C'est terrible à dire. Ça m'est arrivé aussi, comme aux autres, de boire un petit peu, quoi. C'est les seuls endroits où j'ai bu plus que de raison, c'est à l'armée, quoi.
Certains y ont pris des habitudes
peut-être,
dont ils ne se sont jamais défaits.
Hein. Oui, de fumer aussi.
De fumer aussi. Des déprimes au milieu de tout ça, certains craquaient, non?
Je ne saurais pas dire. Ça.
Pas trop de souvenirs précis.
De ce point de vue, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a un endroit où je suis... Quand j'ai été muté, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure... J'ai été muté dans une autre caserne pour remplacer un autre radio qui s'était tiré une balle dans le pied. J'ai su après, quoi. C'était pour le remplacer. Et il y avait en effet par terre, vers l'endroit où il y avait son poste émetteur, un trou dans le sol.
Il avait fait exprès
mais... Ah, il avait fait exprès, là, oui. Alors, il a dû vouloir faire croire qu'il ne l'avait pas fait exprès, mais je crois qu'il y a eu des sanctions en même temps qu'il a fallu le soigner, évidemment.
Donc, les soins.
Donc, ouais. C'est le seul moment de déprime. Les autres déprimes, sinon, elles étaient noyées dans l'alcool, si on peut dire comme ça, quoi. Mm. L'essentiel, c'était qu'on se levait à 4 heures du matin. On partait avec les jeeps et les camions sans lumière. On traversait les bleds et on allait dresser une embuscade pour démolir les populations là-bas. Ça s'est produit X fois.
Et j'imagine à chaque fois que vous partiez, il n'y avait pas forcément un affrontement, si vous tombiez toujours sur des groupes.
C'était rare que ça ne se produise pas. Il y avait un service de renseignement qui était bien fait. C'était rare que ça ne se produise pas. Il n'y avait pas que le colonel, il y avait d'autres officiers qui étaient très habiles.
J'ai eu des militaires du contingent comme vous qui m'ont dit qu'ils sont sortis maintes fois en embuscade, ils n'ont jamais eu à affronter personne. Quoi.
Disons que les trois quarts, ou la plupart des fois, c'était avec résultat. Quoi. Il y a eu une fois où il y a eu un tué près de moi, un jeune militaire qui a fait un peu du zèle, il a cherché dans une cache. Et il a trouvé un trou, il a voulu creuser un peu plus loin, puis il a pris une rafale de mitraillette. Quoi. Et puis un officier qui était derrière a été effleuré par une balle à la tête. Alors bon, hélicoptère, etc. pour les évacuer, mais après je ne sais pas ce que sont devenus les maquisards qui étaient dans la cache.
Parce que vous ne connaissiez pas toujours la fin des
non,
opérations.
Justement.
Alors, peut-être, on vous les cachait ou...
Peut-être heureusement, dans un sens, parce que je ne sais pas comment j'aurais accepté. Quoi. Je vous ai parlé de traces de sang dans un chemin, mais je n'ai pas perçu de près les cadavres, disons, hein, les gens qui ont été tués. C'était des gens d'un village, hein, des rebelles, comme on les appelait à l'époque. J'ai pas eu vraiment, à part ce jeune qui a été tué pas loin de moi parce qu'il faisait un peu du zèle, il aurait mieux fait de pas aller chercher dans ce trou. J'étais au courant des résultats, mais je ne les ai pas vus, si on peut dire. J'étais au courant parce que avec le gradé, mais en même temps, pas au point de les rencontrer, de les voir sur le terrain, tout ça.
Mais vos collègues, enfin les autres militaires, quand ils rentraient, ils racontaient pas.
Ils parlaient même d'un gradé, je ne sais plus son nom, c'est terrible ça, qui faisait du zèle, qui était monté sur un mur et qui tirait dans tous les sens sans craindre d'être abattu, et il n'a pas été abattu, quoi. Mais il jouait les euros, quoi. Les cow-boys, plutôt. Non, j'avais des échos par les autres. J'avais des échos parce que j'étais bien placé avec la radio, la transmission, là, mais je n'ai pas vu autant que j'aurais pu en voir des tués, etc.
Parce que vous n'étiez pas en position
Malheureusement et heureusement en même temps, je vous dis ça parce que j'ai vécu un autre moment, je vous en parlerai tout à l'heure, où j'ai été un peu plus confronté à des choses comme ça, où je me suis demandé que faire, quoi, hein, comment accepter ça. J'y viendrai là peut-être tout à l'heure, je ne sais pas.
La vie quotidienne, c'était quoi? Vous estimiez bien nourri, bien logé?
Bien nourri. On vivait sur le dos des habitants du coin. Hein. On leur fauchait leurs moutons, on leur fauchait leurs poulets. Tout allait bien de ce point de vue, même si c'était le résultat de rapines de l'armée colonialiste. Ça compte énormément, même si c'est le résultat de rapines, quoi, disons comme ça. Mais ça compte énormément que après avoir fait les héros, on se retrouve devant une bonne table, quoi, on mangeait très bien. De ce point de vue-là, je crois que c'était bien. La vie quotidienne dans cette caserne là de Razelayoun, c'était, nous on était quatre radios, donc on avait des relations entre nous très amicales, où on échangeait beaucoup. Je crois que les gens autour de moi étaient un peu convaincus de de cette idée que le peuple algérien avait raison, mais bon, il continuait de suivre le chemin, quoi. Voilà, j'avais pas assez de contact, en fait, avec les autres, là encore. Est-ce que c'est un isolement? Je ne sais pas. J'aurais voulu avoir plus de contact. C'était pas si simple.
C'était des bâtiments durs, là, où vous étiez?
Là, on était... Oui, c'était des bâtiments durs, oui. Là, c'était une ancienne ferme avec un... Comment ils appellent ça, là, un patio avec un jet d'eau qui était dans la maison.
Ah, quoi. Donc une maison,
maison bourgeoise.
Cossue,
oui, oui. Et donc il avait été aménagé en caserne avec tout ce que ça supposait. Ça voulait dire que les paysans avaient été chassés ou ils avaient accepté de nous donner cet endroit, je ne sais pas.
C'était des Algériens ou des Pieds Noirs?
Je me demande. Je pense que je pense que c'était les Pieds Noirs qui avaient là. Mais ils ont sans doute été indemnisés.
J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de la dure. Je revois son sourire près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
Ainsi se termine cette première émission consacrée à Bruno Scandolara, un des 1 343 000 appelés du contingent qu'on envoya pour combattre en Algérie. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La valse de l'Huma, de Pierre Gamara, sur une musique de Jean Viner, interprétée par Éric Amado. puis un morceau à succès populaire de 1960, l'année d'incorporation de Bruno Scandolara, le bebop Elula des Chaussettes Noires, paroles de Vesta et Moine pour la version française, Jean Vincent et Davis pour la musique. Puis c'est Tao Samrouch qui interprétait le chant traditionnel berbère « Aux machines venues de très loin ». Ensuite, vous avez entendu la chanson de Jean Ferrat sur des paroles de Guy Thomas Caserne. Puis la chanson enregistrée en public à l'Olympia par Enrico Macias, le, faites bien attention à la date, 19 mars 1964, « Adieu mon pays » sur des paroles et musiques de G. Genassia. Nous remercions chaleureusement Bruno Scandolara et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission à lui consacrée, au fil de laquelle nous évoquerons avec lui la suite de son séjour en Algérie et son retour. Bonsoir. Thank you.